Chapitre 30. Sol fit le même rêve que celui qu'il subissait depuis le jour fatal où Rachel avait contracté la maladie de Merlin. Il se voyait errant à travers un énorme espace parsemé de colonnes de la taille d'un séquoia géant qui se dressait dans la pénombre. Une lumière rouge tombait de très haut, en rayons presque solidifiés. Puis il entendit le vacarme d'une conflagration géante, comme si des mondes entiers étaient en train de brûler. Devant lui brillaient deux lumières ovales d'un rouge grenat. Il reconnaissait cet endroit. Il savait qu'il allait trouver, un peu plus loin, un autel de pierre sur lequel serait étendue Rachel, sa Rachel inconsciente, âgée d'une vingtaine d'années. Puis la voix viendrait dicter ses conditions. Il s'arrêta sur la corniche basse pour contempler, au-dessous de lui, le spectacle familier. Sa fille, la jeune femme à qui Sarah et lui avaient dit adieu lorsqu'elle était partie faire sa thèse sur le monde lointain d'Hyperion, gisait nue sur la grosse dalle de pierre plate. Au-dessus de tous, bien plus haut, flottaient les deux points rouges qui étaient les yeux du Gritch. Sur l'autel était posé un long poignard à lame courbe d'une seule pièce qui semblait en corne. La voix se fit alors entendre.
« Sol, tu dois prendre ta fille unique, Rachel, que tu aimes, et te rendre sur le monde qu'on appelle Hyperion pour l'immoler par le feu à l'un des endroits que je t'indiquerai. »
Il avait les bras qui tremblaient de rage et de douleur. Il s'arracha littéralement les cheveux et cria dans les ténèbres la réponse qu'il avait déjà donnée à la voix.
« Il n'y aura plus d'offrande, ni d'enfants, ni de parents. Il n'y aura plus d'autres sacrifices. Le temps de l'obéissance et de l'expiation est passé. Aide-nous en ami ou bien va-t'en !»
Dans ses précédents rêves, ces paroles avaient été suivies du hurlement du vent et d'un terrible sentiment de solitude tandis que des pas lourds s'éloignaient dans la nuit. Mais cette fois-ci, le rêve persista. L'autel se mit à rougeoyer et fut soudain vide, à l'exception du poignard de corne. Les deux ovales rouges flottaient toujours au-dessus de lui, comme des rubis de feu de la taille d'une planète.
« Écoute-moi bien, Sol, »
reprit la voix beaucoup plus modulée à présent, comme si elle murmurait à l'oreille de Sol au lieu de résonner dans les cieux.
« L'avenir de l'humanité dépend du choix que tu vas faire. Peux-tu offrir ta Rachel par amour, sinon par obéissance ? »
Sol entendit la réponse dans sa tête alors même qu'il cherchait les mots. Il n'y aurait plus d'offrande, ni aujourd'hui, ni jamais. L'humanité avait suffisamment souffert pour son amour des dieux, pour sa longue quête d'un dieu. Il songea aux nombreux siècles durant lesquels son peuple, le peuple juif, avait négocié avec Dieu, récriminant, marchandant, protestant contre l'injustice des choses, mais revenant toujours et toujours à l'obéissance pure et simple, quel qu'en soit le prix final. Des générations entières exterminées dans les fours de la haine. Les générations futures marquées par les feux glacés du rayonnement et de la haine encore. Pas cette fois-ci. Plus jamais.
Réponds oui. « Papa ?»
Sol regarda, effaré, le contact d'une main sur la sienne. Sa fille, Rachel, se tenait à côté de lui, ni bébé ni adulte, mais âgée de 8 ans, telle qu'il l'avait connue 2 fois, une dans chaque sens de son évolution, avec ses cheveux châtain clair rassemblés en une seule tresse, sa salopette en jean délavée et ses baskets de gamine. Il lui prit la main, en la serrant aussi fort que possible sans lui faire de mal. Il sentit qu'elle lui rendait sa pression. Ce n'était pas une illusion. Ce n'était pas une manifestation finale de la cruauté du Gritch. C'était sa fille.
« Réponds oui, papa. »
Sol avait résolu le problème d'Abraham de l'obéissance à un dieu devenu malveillant. L'obéissance ne pouvait plus occuper la place la plus importante dans les relations entre l'humanité et sa divinité. Mais que se passait-il lorsque c'était l'enfant choisi pour le sacrifice qui demandait l'obéissance aux caprices de la divinité ? Il mit un genou à terre près de sa fille, et lui ouvrit les bras.
« Rachel !»
Elle se serra contre lui avec la même fougue qu'en d'innombrables occasions du même genre, le menton haut sur l'épaule de son père, les bras chargés d'un amour intense. Et elle murmura à son oreille.
« Je t'en prie, papa, il faut que nous répondions oui. »
Il continua de la serrer contre lui, heureux de sentir ses petits bras et la chaleur de sa joue. Il pleurait silencieusement, et il sentait les larmes couler sur sa joue et sur sa barbe, mais il ne voulait pas la lâcher, même une seconde pour les essuyer.
« Je t'aime, papa, »
murmura Rachel. Il se redressa alors, s'essuya le visage du revers de la main, et commença, en tenant fermement sa fille par la main, la lente descente vers l'autel de pierre. Il se réveilla avec la sensation qu'il tombait et qu'il cherchait à protéger le bébé. Rachel dormait toujours contre son torse, les poings serrés, le pouce à la bouche. Mais lorsqu'il se redressa, elle se réveilla avec le réflexe de tension et le cri d'un nouveau-né effrayé. Sol laissa tomber sa cape et ses couvertures pour la serrer tendrement dans ses bras. Il faisait jour. La matinée semblait même bien avancée. La nuit avait pris fin pendant leur sommeil, et le soleil avait envahi la vallée et les tombeaux. Le sphinx était tapis au-dessus d'eux comme un prédateur dont les pattes s'étendaient de chaque côté de l'escalier où il avait dormi. Rachel se mit à vagir, le visage horriblement déformé par la faim, le choc du réveil et la peur qu'elle sentait chez son père. Sol la berça dans la lumière fantasmagorique. Il remonta à l'entrée du sphinx, changea sa couche, chauffa l'un des derniers biberons et le lui donna jusqu'à ce que ses vagissements se transforment en petits bruits de succion. Il lui fit faire son rot, puis la promena dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se rendorme d'un sommeil léger. Le moment de sa naissance se situait dans moins de 10 heures, à la tombée du soir. Sa fille vivrait alors ses dernières minutes. Il aurait voulu que le sphinx fût un grand édifice de verre symbolisant le cosmos et la divinité qui régnait sur lui. Il aurait alors jeté des pierres sur sa façade, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul carreau entier. Il essaya de se rappeler son rêve dans tous ses détails, mais le peu d'assurance et de chaleur qu'il avait pu en retirer fondirent à la lumière crue du soleil d'Hyperion. L'idée d'offrir sa fille en sacrifice au Gritch lui révulsait l'estomac d'horreur.
« Ne t'inquiète pas, » murmura-t-il tandis qu'elle s'agitait dans son sommeil. « Tout va très bien se passer, tu verras, ma chérie. Le vaisseau du consul sera bientôt là. Je sens qu'il va arriver d'un instant à l'autre. »
Le vaisseau n'arriva ni avant midi, ni dans le milieu de l'après-midi. Sol arpenta la vallée en criant le nom de ses compagnons disparus et en chantant des berceuses à moitié oubliées chaque fois que Rachel se réveillait. Elle se rendormait aussitôt. Elle semblait aussi légère qu'une plume. Il se rappelait qu'elle pesait exactement 6 livres et 3 onces à la naissance et mesurait 19 pouces. Il sourit à l'évocation des antiques unités de mesure de sa planète natale, le monde de Barnard. En fin d'après-midi, il se réveilla en sursaut de sa demi-torpeur à l'ombre de la patte tendue du sphinx. Le bébé au bras, il regarda le vaisseau qui descendait lentement dans le ciel lapis.
« J'y est arrivé !»
cria-t-il, tandis que Rachel gigotait et couinait comme si elle comprenait. La ligne bleue d'une flamme de fusion brûlait avec l'intensité que seul peut atteindre un vaisseau dans l'atmosphère. Sol sautillait sur place, rempli d'espoir comme il ne l'avait pas été depuis bien longtemps. Il sauta en hurlant jusqu'à ce que Rachel, inquiète, se mette à pleurer. Il cessa alors de s'agiter et la souleva au-dessus de sa tête, sachant très bien que ses jeunes yeux étaient encore incapables d'accommoder, mais voulant qu'elle voie la beauté de ce vaisseau en train de décrire une courbe au-dessus des montagnes lointaines et de descendre se poser sur le plateau désertique.
« Il a réussi !»
s'écria Sol.
« Il arrive ! Grâce à lui, nous allons !»
3 lourdes détonations retentirent presque simultanément dans la vallée. Les 2 premières étaient les bangs soniques jumeaux, signature précédant le vaisseau lors de sa décélération. La 3e était le bruit de sa destruction.
Sol vit le point brillant constituant la pointe de la longue traîne de fusion devenir soudain aussi lumineux que le soleil, puis grossir à la taille d'une boule de flamme et de gaz en fusion avant de s'abattre sur le désert en 1000 fragments incandescents. Il cligna plusieurs fois les yeux pour chasser les échos rétiniens, tandis que Rachel continuait de pleurer.
« Mon Dieu !»
gémit Sol.
« Mon Dieu !»
La destruction complète du vaisseau ne faisait aucun doute. Des explosions secondaires déchiraient l'air malgré la distance d'au moins 30 kilomètres. Des morceaux retombaient, suivis d'un sillage de flammes et de fumée sur le désert, les montagnes et la mer des hautes herbes qui s'étendaient au-delà.
« Mon Dieu !»
Il s'assit sur le sable chaud. Il était trop épuisé pour pleurer, trop vide pour faire quoi que ce soit d'autre que bercer son enfant jusqu'à ce que ses pleurs cessent. 10 minutes plus tard, il releva la tête tandis que 2 nouvelles traînées de fusion embrasaient le ciel en se dirigeant du zénith au sud. L'une des deux explosa, trop loin pour que le son parvienne jusqu'à lui. La deuxième disparut au sud, derrière les montagnes et la chaîne bridée.
« Ce n'était peut-être pas le consul, »
murmura Sol.
« C'était peut-être des extros. Le vaisseau du consul va sans doute bientôt arriver. »
Mais rien ne se passa jusqu'au moment où le petit soleil d'Hyperion déclina jusqu'au ras des falaises et où les marches du Sphinx furent plongées dans l'ombre. Bientôt, toute la vallée fut envahie par le crépuscule. Rachel était née à moins de 30 minutes de cet instant. Sol vérifia sa couche. Elle n'était pas mouillée. Il lui donna le dernier biberon. Tandis qu'elle tétait goulûment, elle le regardait de ses grands yeux sombres comme pour scruter ses pensées. Il se souvenait des premières minutes où il l'avait prise tandis que Sarai se reposait sous les couvertures. Les yeux du bébé l'avaient transpercé des mêmes questions brûlantes et du même étonnement devant la découverte de ce monde. Le vent du soir amena des nuages qui se déplaçaient rapidement au-dessus de la vallée. On entendait au sud-ouest une rumeur qui ressemblait d'abord au grondement lointain du tonnerre, puis à la régularité écœurante de l'artillerie. C'était probablement des explosions nucléaires ou au plasma, à 500 km au sud ou davantage. Sol scruta le ciel entre 2 masses de nuages. Il aperçut des traînées de météores fulgurants qui zébraient l'atmosphère, probablement des missiles balistiques ou des vaisseaux de descente. Dans les 2 cas, ils apportaient la mort sur Hyperion. Détournant les yeux de ce spectacle, il fredonna une berceuse tandis que Rachel finissait de prendre son biberon. Il s'était avancé jusqu'à l'entrée de la vallée, mais il commença à prendre lentement le chemin du retour au Sphinx. Les tombeaux étaient plus luminescents que jamais. Il miroitait d'une lumière crue de gaz au néon excité par des électrons. Au-dessus de sa tête, les derniers rayons du couchant étaient en train de transformer les nuages bas en un plafond de flammes pastel. Il restait moins de 3 minutes avant l'instant de la naissance de Rachel. Même si le vaisseau du consul arrivait maintenant, Sol savait qu'il n'aurait plus le temps de monter à bord ni de mettre son enfant en état de fugue cryotechnique. Il ne désirait plus le faire. Il grimpa lentement les marches du Sphinx, conscient de ce que Rachel avait fait le même parcours 26 années standard plus tôt, ignorante du sort qui l'attendait dans la crypte obscure. Il s'arrêta en haut des marches pour reprendre son souffle. La lumière du soleil était quelque chose de palpable, qui remplissait le ciel et embrasait les ailes et toute la partie supérieure du Sphinx. Le tombeau lui-même semblait restituer toute la lumière emmagasinée dans la journée, comme les rochers du désert d'Hébron où Sol avait erré, des années auparavant, à la recherche d'une réponse à ses problèmes, pour n'y trouver que des boires et des illusions. L'air miroitait et le vent souffla un peu plus fort, soulevant le sable de la vallée avant de se calmer. Sol posa un genou sur la marche supérieure du Sphinx et retira la couverture qui enveloppait Rachel. Elle ne portait que la couche de coton blanc qu'on lui avait mise à la naissance. Elle gigotait entre ses mains. Son visage était violacé et luisant. Ses petites mains étaient rouges à force de se crisper et de se décrisper.
Sol se rappelait avec une précision étonnante le moment où le médecin lui avait tendu le bébé. Il ouvrait de grands yeux en regardant sa fille, exactement comme maintenant. Puis il l'avait posée sur le ventre de Sarai pour qu'elle puisse la voir.
« Mon Dieu !»
murmura-t-il en s'agenouillant pour de bon sur les deux jambes. La vallée tout entière se mit à frémir comme sous l'effet d'une onde sismique. Il perçut confusément le bruit d'une série d'explosions qui se propageaient vers le sud, mais son attention était maintenant fixée sur l'effrayant halo émis par le sphinx. L'ombre de Sol fit un bond de 50 mètres en arrière sur l'escalier et dans la vallée, tandis qu'une lumière pulsante et vibrante jaillissait du tombeau. Du coin de l'œil, il vit que les autres tombeaux du temps étaient illuminés de la même manière, tels d'énormes et baroques réacteurs nucléaires dans les dernières secondes précédant la fusion du cœur. L'entrée du sphinx était auréolée d'une lumière pulsante bleue qui devint rapidement violette, puis d'un blanc à l'éclat insoutenable. Derrière le sphinx, contre la paroi verticale du plateau qui dominait la vallée des tombeaux du temps, l'image floue d'un arbre impossible se stabilisa peu à peu. Son tronc gigantesque et ses branches énormes en acier acéré s'élevaient jusqu'aux nuages éclatants. Sol le regarda rapidement, distingua les épines de 3 mètres et les fruits terrifiants qui y pendaient. Puis il se tourna de nouveau vers l'entrée du sphinx. Quelque part, le vent se remit à hurler. Le tonnerre gronda. Quelque part aussi, une poussière de sable vermillon se souleva comme des voiles de sang séché dans la terrible lumière des tombeaux. Quelque part encore, des voix hurlèrent et un cœur glapit des lamentations. Ignorant tout cela, Sol n'avait Dieu que pour sa fille, et, derrière elle, pour la silhouette qui occupait maintenant l'entrée du sphinx. Le Gritch s'avança. Le monstre de 3 mètres de haut dut se baisser pour ne pas toucher la voûte de l'entrée de ses épines d'acier. Il s'avança sur l'étroit parvis du tombeau, à moitié statue et à moitié créature vivante. Sa démarche avait cette terrible lenteur délibérée que l'on ne trouve que dans les cauchemars. La lumière agonisante du ciel glissait sur la carapace du monstre, cascadant sur son torse de chitine et sur les épines d'acier qui le hérissaient, jetant des reflets sur les lames acérées et les scalpels de ses doigts. Sol serra son bébé contre lui, sans quitter du regard les escarboucles à multiples facettes qui servaient Dieu au Gritch, tandis que le coucher de soleil se fondait dans la lueur rougissante de son rêve récurrent. La tête du Gritch se tourna lentement, pivotant sans friction, effectuant une rotation de 90 degrés à droite puis à gauche, comme si la créature voulait contempler toute l'étendue de son domaine. Le Gritch fit 3 pas en avant et s'arrêta à moins de 2 mètres de Sol. Les 4 bras de la créature se levèrent en se pliant, tandis que les lames se déployaient. Sol serra encore plus fort le bébé contre lui. Sa peau était huileuse, son visage chargé de mucus excrété à la naissance. Ses yeux suivaient des directions différentes, mais semblaient fixés sur Sol. Il ne restait plus que quelques secondes.
« Réponds oui, papa. »
Sol n'avait pas oublié son rêve. La tête du Gritch s'abaissa jusqu'à ce que ses terribles yeux rubis ne regardent plus que Sol et son enfant. Les mâchoires de vif argent s'entr'ouvrirent légèrement, montrant de multiples rangées de dents d'acier. 4 mains se tendirent, la paume métallique vers le haut, et s'immobilisèrent à 50 centimètres du visage de Sol.
« Réponds oui, papa. »
Sol se souvenait que dans son rêve, sa fille le serrait très fort. Il comprenait que, tout compte fait, quand tout le reste est devenu poussière, la loyauté envers ceux que nous aimons est la seule chose que nous pouvons emporter avec nous dans la tombe. La foi, la vraie foi, reposait sur cet amour-là. Sol leva son nouveau-né mourant, âgé de quelques secondes à peine, qui poussait son premier et son dernier cri, et le donna au Gritch.
l'absence soudaine de son poids déjà si léger le frappa d'un terrible vertige. Le Gritch prit Rachel, recula, et fut environné de lumière. Derrière le sphinx, l'arbre aux épines cessa de miroiter, se mit en phase avec le moment présent, et devint d'une netteté terrifiante. Sol s'avança, les bras implorants, tandis que le Gritch reculait dans la lumière et disparaissait. Une série d'explosions déchira la couverture nuageuse et jeta le vieil homme à genoux sous la force de l'onde de choc. Derrière lui, autour de lui, les tombeaux du temps étaient en train de s'ouvrir.